Bonjour à toutes, bonjour à tous. Bienvenue dans Culture Monde, votre magazine international que vous retrouvez du lundi au vendredi sur France Culture. On est ensemble jusqu'à midi. Une émission préparée ce matin par Mélanie Chalandon, Samuel Bernard, mais aussi Marguerite Caton et Corentin Mansoir, réalisée par Benjamin Hu et mise en onde ce matin par Bruno Gagnère-Fontanille. Comme chaque vendredi, on vous propose une table ronde sur un sujet d'actualité internationale avec nos partenaires du monde. Et c'est le retour de Marc Semo. Bonjour Marc.
Bonjour.
On va parler aujourd'hui de la Turquie. Le 31 mars prochain se tiendront des élections municipales en Turquie. Et si ce scrutin pourrait paraître comme secondaire, il est en réalité décisif pour le pouvoir. Et particulièrement parce que la santé économique du pays n'est pas bonne et que la réussite économique, c'est précisément ce qui a permis à l'AKP de remporter quasiment toutes les élections depuis 2002. Alors l'AKP peut-elle perdre cette fois? Quel risque politique pour l'hyper-président Erdogan? L'opposition pourra-t-elle profiter de la récession pour sonner le début de la fin de l'erdoganisme? Pour évoquer toutes ces questions, Hamid Bozarslan, bonjour.
Bonjour.
Merci beaucoup d'être avec nous. Vous êtes historien, sociologue et puis directeur d'études à l'École des hautes études en sciences sociales, auteur de plusieurs ouvrages, Crise, violence et décivilisation, qui est paru récemment chez CNRS Éditions. À vos côtés, Béatrice Garapon, bonjour.
Bonjour.
Merci d'être avec nous. Vous êtes vous politologue, postdoctorante associée au CETOBAC, le Centre d'études turques, ottomanes, balkaniques et centre-asiatiques. Avant d'évoquer cette Turquie, place à notre retour d'eux, en partenariat avec l'association des prix Albert Londres. Le journaliste qu'on reçoit ce matin nous revient de Thaïlande, où le week-end dernier se tenaient des élections législatives.
Franchement, je suis impressionné et super content qu'on puisse enfin voter, exercer nos droits, choisir nos représentants. Et si vous voulez mon avis, il est temps qu'on fasse le ménage.
Il y a beaucoup de monde, on a dû déployer du personnel en plus, mais sinon tout se passe bien. À part quelques personnes un peu perdues, on va dire 10% des gens qui n'ont pas l'habitude, il n'y a rien à signaler.
Bonjour Vincent Souriau.
Bonjour.
Merci d'être avec nous ce matin. Vous êtes journaliste pour RFI, l'ancien correspondant en Indonésie entre 2011 et 2013. C'est vous qui avez recueilli ces témoignages. Vous revenez toujours donc tout juste donc de Thaïlande avec ces élections législatives qui étaient un scrutin très important là aussi pour le pouvoir parce que c'était le premier depuis la reprise de en main de l'armée. C'était en 2014 avec ce coup d'État. Face à cette armée, on a des partis pro-démocratiques, notamment le Feu Thaï qui se revendique du mouvement des chemises rouges, on y reviendra. On a aussi l'Anakot Mai, qui est un nouveau parti, on en parlera également.
C'est plus facile en français.
C'est plus facile en français, oui, absolument. C'est un parti qui attire particulièrement les jeunes électeurs, mais on y reviendra. Les résultats définitifs, on ne les connaît pas encore, mais on a déjà quelques indications, on va y revenir. D'abord sur la participation, on entendait là, à l'instant, dans ces témoignages, l'envie, au fond, de démocratie. La participation, c'est 66%, c'est pas mal, c'était peut-être, on espérait peut-être davantage, mais c'est quand même pas mal. On sent quand même, aujourd'hui en Thaïlande, ce désir de démocratie, ce désir de participer au processus électoral.
Oui, il y avait une énorme envie au sein des militants d'opposition, des gens des partis politiques que j'ai rencontrés, et aussi au sein de la jeunesse, en particulier dans les universités, grosse envie de mobilisation. Maintenant, c'était vrai sur le papier, ce qui s'est passé dans les urnes, c'est que ça ne s'est pas aussi bien passé que prévu, la mobilisation a été moins importante que ce qu'avaient annoncé les instituts de sondage. Donc je pense qu'il y a une grosse déception pour les partis d'opposition qui s'attendaient justement à ce que le vote populaire soit massif, de manière à contrebalancer les intentions de la junte militaire. Clairement, de ce point de vue-là, c'est raté.
Alors, on va en venir évidemment au résultat, mais d'abord parlons un peu de la campagne, parce que l'opposition a quand même pu mener campagne, il n'y a pas eu de grosses interdictions, vous parlez de petites brimades. Qu'est-ce que vous appelez des petites brimades?
Petites brimades, si on peut dire, c'est une façon de parler, mais effectivement, par exemple, des opérations de porte-à-porte qui sont interdites, des autorisations préalables. L'opposition demande à, par exemple, louer une salle pour organiser une réunion publique. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut demander l'autorisation des militaires. Les militaires disent non. Ou alors, il faut donner les identités de tous les intervenants et pratiquement de tous les gens qui vont venir. Et évidemment, dans ces cas-là, l'opposition dit non. Mais effectivement, d'une manière ou d'une autre, il y a eu de petites choses qui ont mis des bâtons dans les roues de l'opposition, mais pas d'interdiction massive parce que d'une certaine manière la junte ne pouvait pas se le permettre en raison des événements politiques des dernières années.
Et puis aussi peut-être, et c'est ce que vous dit d'ailleurs l'un des Thaïlandais que vous rencontrez, il vous dit aussi que d'abord l'armée était certaine de l'emporter et que par ailleurs les résultats économiques sont pas très bons et que c'était difficile de se permettre d'empêcher cette campagne de l'opposition.
Exactement, parce qu'il fallait aussi se faire bien voir à l'international. C'était l'une des raisons principales pour lesquelles le pouvoir tenait à organiser ces élections. C'est parce que l'économie stagne depuis l'arrivée au pouvoir des militaires et qu'il faut en quelque sorte s'offrir un vernis démocratique de manière à ce que plusieurs accords de libre-échange, en particulier avec l'Union européenne, puissent reprendre leur cours normalement. Or, pour se faire bien voir de l'Europe, il faut des élections en théorie libres et transparentes. Donc la junte militaire n'avait d'autre choix que de laisser les partis d'opposition faire campagne librement. Et j'avoue que pour moi, ça a été quand même une surprise d'arriver à Bangkok et dans la région et de voir des partis d'opposition qui peuvent faire campagne publiquement, taper sur la junte sans que personne ne les embête et avoir une organisation militante et politique parfaitement équivalente à ce qu'on pourrait voir en Europe sans aucun problème.
Sur les fraudes, est-ce qu'on sait s'il y en a eu, beaucoup, enfin...
On ne sait pas vraiment. Ouais. Ce qu'on sait, c'est que la commission électorale est complètement incompétente et qu'ils ont arrêté le décompte des voix en pleine nuit, ce qui a provoqué un choc terrible. Ouais. On ne sait pas vraiment ce qui s'est passé, on ne le saura sans doute jamais. Aujourd'hui, par exemple, sur la participation, vous avez évoqué 66% tout à l'heure. Hier encore, la commission électorale disait « bon, en fait, non, c'est 74%. ». Mais en fait, c'est peut-être 66%. Ouais, ouais. En fait, on ne sait pas.
Alors, les résultats eux-mêmes, non définitifs, mais ceux qui ont été donnés par la commission électorale, le parti pro-militaire, le Palang Prasarat, qui aspire donc à maintenir la junte au pouvoir, serait arrivé en tête, c'est ce que nous dit pour l'instant la commission, 7,6 millions des voix. On vient ensuite le principal parti d'opposition, le Fethai, parti de l'ex-premier ministre Thaksin Shinawatra, 7,2 millions de votants. Donc, la première chose qu'on voit, c'est qu'en fait, c'est très serré.
C'est très serré, beaucoup plus serré que ce qu'espérait le camp pro-démocratie. Et je pense que les Thaïlandais ont voté pour la stabilité parce que souvenir des événements tragiques de ces dernières années, avec notamment en 2010 une centaine de morts à Bangkok, ce qui a marqué les esprits de manière durable. L'opposition s'attendait à un sursaut vote populaire, comme je le disais tout
voire
à l'heure.
Voire carrément un raz-de-marée.
Un raz-de-marée.
Ça n'a pas eu lieu.
Ça n'a pas eu lieu. Et c'est un gros problème pour l'opposition parce que la junte partait avec une longueur d'avance dans la mesure où le Sénat est acquis à la junte. Or, qui élit le Premier ministre? Sénat et Assemblée nationale. Donc, le seul moyen pour l'opposition de se mettre à la hauteur des militaires, c'était d'avoir une Assemblée nationale pratiquement majoritaire, majorité absolue à l'Assemblée nationale. Ça n'a pas été possible.
Donc... Sachant qu'il n'y a que 150 sièges qui étaient en jeu.
Voilà. Ouais. Les chances sont très minces. Hein.
Alors, peut-être le nouveau fait là dans cette élection, c'est l'émergence d'un nouveau parti qui fait son entrée dans le paysage politique. C'est l'Anakot Mai, le parti du Nouvel Avenir, qui a remporté, lui, 5,4 millions de voix devant le Parti conservateur. Comment est-ce qu'on peut comprendre l'émergence de ce nouveau parti? Qu'est-ce qu'il révèle, selon vous?
Pour moi, c'est un homme neuf, un jeune homme de 40 ans, affilié à aucun parti politique, qui n'a pas de carte de visite militante dans le passé thaïlandais. Maintenant, ce qu'il a réussi à faire, c'est attirer les votes, notamment de la jeunesse, avec une aspiration démocratique des étudiants qui est manifeste. Les étudiants que j'ai rencontrés m'ont tous dit... On n'a jamais voté, on a toujours vécu sous un système quasiment totalitaire, avec des militaires au pouvoir, il est temps que ça change. Et avec une campagne très intelligente sur les réseaux sociaux, une organisation militante proche de celle, par exemple, d'Obama ou à la française de Macron, il a réussi à accrocher ces gens qui n'avaient pas d'aspiration politique à l'origine, mais qui, sur les réseaux sociaux... ont découvert quelque chose de neuf.
C'est étonnant quand même, parce que cet homme-là, vous ne l'avez pas encore dit, mais c'est un fils de milliardaire. Étonnant de se dire que ce profil-là attire autant les jeunes.
C'est comme s'ils avaient fait abstraction de son passé. Ce que me disaient certains des étudiants, c'est que peu importe, finalement. Ce qui compte, c'est son discours. Et il s'est fait connaître aussi par son discours extrêmement virulent à l'égard de la junte, avec, en gros, une devise, il faut qu'il dégage. Mmh. Et ça a extrêmement bien accroché dans la jeunesse.
Alors, on peut dire que c'est une bonne nouvelle parce que d'une certaine manière, ça renouvelle un petit peu le jeu, mais en même temps, ça affaiblit considérablement le principal parti d'opposition. Et donc, ça entame quand même les chances des pro-démocratie.
Oui, alors maintenant, ils sont en train de former une coalition. Est-ce que ça va fonctionner? Personne ne le sait encore. Mais ce qui est vrai, ce qui m'a marqué, moi, c'est que ce nouveau parti, Parti du Nouvel Avenir, fait campagne sur le rejet de la junte, mais il y a très peu de propositions concrètes pour la suite. Si vous voulez, quand vous demandez aux militants et aux cadres de ce Parti du Nouvel Avenir, imaginons que vous arriviez au pouvoir et que vous arriviez à mettre la junte de côté, quelles seront vos premières mesures? Là, on me disait tout de suite, c'est beaucoup trop tôt pour parler de ça. Et si vous voulez, il y a une sorte de déficit programmatique dans la mesure où le Peu Atai dont vous parliez, qui est le principal parti d'opposition, est composé de technocrates qui ont déjà été au gouvernement et qui ont de vraies idées avec comment mettre en place des politiques publiques, etc. Le fait que eux perdent du poids dans l'électorat au profit du Parti du Nouvel Avenir, ça crée une sorte de distorsion dans la mesure où le Parti du Nouvel Avenir, pour l'instant, on ne sait pas ce qu'il vaut. Mais tout ce qu'on sait, c'est qu'ils veulent rejeter la junte.
Est-ce qu'ils pourraient justement s'allier sur ce principe de rejet de la junte, justement?
Mais c'est clairement le cas. Ils sont en train de former une coalition avec plusieurs partis d'opposition de manière à essayer de faire le contrepoids, mais institutionnellement, je ne pense pas que ça puisse suffire.
Ouais, ils ont dit qu'ils étaient en mesure de former un nouveau gouvernement, sauf qu'évidemment, de leur côté, les militaires ont dit qu'eux aussi étaient en mesure de former un nouveau gouvernement. Les risques de violence post-électorale, elles existent? Ils existent, pardon.
Il y en a, d'après ce qu'on m'a dit, mais je pense que le souvenir de cette centaine de morts à Bangkok est dans tous les esprits, et je pense qu'il n'est pas question pour les anciennes chemises rouges d'appeler leurs partisans à redescendre dans la rue pour cette raison, parce qu'ils ont trop peur que leurs militants se fassent massacrer par les militaires.
Vincent Souriau, alors le scrutin n'a peut-être pas été parfaitement démocratique, il n'empêche que le soutien pour ce parti pro-junte, il est réel, d'ailleurs on l'a vu dans les meetings où il y avait quand même beaucoup de monde. Ouais. Comment comprendre ce soutien? Pourquoi, au fond, les gens votent encore pour l'armée?
Stabilité, conservatisme, peur des troubles et respect de la monarchie. Je pense que ça se tient comme ça. Souvent, ce sont des notions qui sont liées, c'est-à-dire que ceux qu'on a appelés dans le temps les chemises jaunes, qui étaient opposés aux chemises rouges, étaient souvent des gens issus du sud du pays ou de Bangkok, qui étaient les plus conservateurs.
Et soutien à l'armée et à la monarchie.
Voilà, souvent ça va ensemble. Et je pense que cet électorat a prévalu et qu'ils ont préféré voter par la junte plutôt que prendre le risque de pencher de l'autre côté en se disant que ça allait sans doute provoquer de l'instabilité et peut-être des troubles équivalents à ceux qu'on a connus ces 10 dernières années en Thaïlande.
Mais quand on regarde le bilan politique de la junte, ça fait maintenant 5 ans qu'ils ont repris le pouvoir et que Prayut Chan-o-cha, qui est issu des rangs de l'armée, est à la tête du pays. Quel bilan on peut faire? Et peut-être en particulier sur le plan économique.
L'économie a stagné de manière assez inquiétante et tous les gens que j'ai pu rencontrer dans la rue ou dans les partis politiques m'ont dit la même chose, c'est que ça allait beaucoup moins bien sous l'ère de la junte que sous l'ère des gouvernements Thaksin précédemment. D'ailleurs, le programme économique de la junte a calqué celui des années Thaksin, mais c'est ce que je vous disais tout à l'heure, au sein des équipes de Thaksin Shinawatra, il y avait des technocrates qui étaient capables de mettre en œuvre ces politiques économiques. L'équipe de la junte, visiblement, n'est pas assez bien préparée. Aujourd'hui, finalement, la junte est obligé d'en appeler à l'international pour essayer de regonfler ses caisses, parce que sinon, ils ne vont pas y arriver.
Vous préparez, Vincent Souriau, un long documentaire sur les chemises rouges, qui est ce mouvement qui est apparu dans les années 2000, en soutien précisément à Thaksin Shinawatra, qui avait été nommé en 2001 Premier ministre, et puis finalement renversé quelques années après, en 2006. Qu'est-ce qu'il reste aujourd'hui de ce mouvement?
C'est toute la question. Il reste des militants, mais la question qui se pose, c'est comment ce mouvement populaire peut-il se traduire politiquement? Et ça reste à déterminer. C'était à l'origine un mouvement hétéroclite, effectivement, de gens qui soutenaient Thaksin Shinawatra parce qu'il avait mis en place ces politiques économiques qui leur avaient redonné du pouvoir d'achat, qui avaient haussé leur niveau de vie. Lorsqu'il a été chassé du pouvoir par le coup d'État de 2006, il y a eu une étincelle populaire qui a amené des centaines et des milliers de gens dans Bangkok et dans tout le pays pour dire « ça n'est pas possible ». Ce Premier ministre s'était mis au service du peuple, il fallait le maintenir au pouvoir. Il y a eu dans la foulée des violences, la junte a résisté, des morts. Aujourd'hui, ils sont en quelque sorte orphelins de Thaksin Shinawatra et tous les représentants des chemises rouges que j'ai rencontrés m'ont dit finalement « Il n'y a aucun parti politique aujourd'hui qui nous représente. Je ne veux pas faire une analogie stupide, mais prenons par exemple le mouvement des Gilets jaunes en France. S'il fallait le traduire dans les partis politiques français, ce serait assez compliqué. D'une certaine manière, il ne faut pas trop faire de comparaison de ce type, mais d'une certaine manière, le mouvement des chemins rouges a beaucoup de mal à trouver sa traduction politique aujourd'hui en dehors de Thaksin Shinawatra, qui est en exil depuis plusieurs années. Donc, ils sont orphelins, et je pense que le fait que le PEATAI, le premier parti d'opposition, affilié à Thaksin Shinawatra aujourd'hui, que ce parti ait manqué de voix pendant ces élections législatives, c'est la traduction, ces chemises rouges sont un peu désorientées, et qu'en dehors de la figure de Thaksin, ils n'ont trouvé pas grand monde pour les représenter.
Il y en avait une autre figure. C'était la sœur de Thaksin, justement. Et d'ailleurs, elle a été Premier ministre pendant quelques mois, même peut-être quelques années, de 2011 à je ne sais plus quelle année. Mmh. Et puis finalement, la Cour suprême l'a balayée et l'armée a repris le pouvoir. Elle n'a pas d'avenir politique. Elle ne peut pas incarner justement ce mouvement social des chemises rouges.
Je ne crois pas. Et sans lui faire offense, je pense qu'on peut dire que c'était en quelque sorte une marionnette de son frère qui tirait toujours les ficelles. Maintenant qu'elle a été elle aussi chassée du pouvoir, tous les gens que j'ai pu rencontrer, les professeurs d'université m'ont dit qu'il y avait très peu de chances que la famille Shinawatra puisse être de retour un jour. Et les chemises rouges vont devoir se débrouiller par eux-mêmes.
Et il n'y a pas d'autres figures qui pourraient émerger, quitte à ce que ça soit une autre marionnette. Mais
pourquoi pas Anna Kotmai, le parti du Nouvel Avenir, ce fameux Thanatorn, milliardaire qui se revendique comme l'avenir du pays. Maintenant, il ne faut pas oublier que parmi les membres de la famille de Thanatorn, donc parti du Nouvel Avenir, il y avait des gens qui étaient très proches de la famille Shinawatra. Donc on peut considérer, pourquoi pas, ce sont des théories que j'ai entendues, finalement, que ce parti du Nouvel Avenir avait été créé de toutes pièces par Shinawatra, parce qu'il y aurait une sorte de division des tâches où le Parti du Nouvel Avenir aurait été chargé de conquérir la jeunesse, ce qu'il a réussi à faire, et le PEATAI, le premier parti d'opposition, lui se dirigeait davantage vers l'électorat traditionnel de Thaksin, des gens plus populaires, et finalement cette conjonction des deux, vote populaire côté PEATAI et vote de la jeunesse côté Nouvel Avenir, était une stratégie montée pour contrebalancer la junte, mais ça n'a pas fonctionné.
La monarchie, depuis 2016, c'est Rama X qui est au pouvoir. Il a remplacé son père, Rama IX.
Il n'avait pas trop envie de venir.
Qui était resté au pouvoir pendant 70 ans. Son rôle, son poids dans la vie politique aujourd'hui, c'est quoi ?
Il est énorme dans la mesure où la royauté est considérée comme la monarchie. C'est deux droits divins en Thaïlande et il y a un énorme respect. Je vous donne un exemple. À chaque début de meeting politique, tous les responsables commencent par des offrandes au statut du roi, à la statue du roi, parce que ça se passe comme ça. C'est très difficile d'établir l'influence précise de la monarchie parce que le roi ne s'exprime jamais. Maintenant, on peut se poser la question, finalement, quand il y a un coup d'État, par exemple le dernier en 2014, un coup d'État en Thaïlande peut-il ne pas être sanctionné par la monarchie ? Ça semble difficile à croire. Maintenant, il se place, comme toutes les monarchies du monde, en dehors des partis politiques, comme le garant de l'unité de la nation. Ce qu'ils ont fait là, avant ces élections législatives, la semaine dernière, c'est de publier un communiqué pour demander aux Thaïlandais d'aller voter et de voter pour les bonnes personnes. Sans plus de précision.
Il y a eu un moment, il y a quelques mois, où la sœur du roi, cette fois, Ubolratana...
La princesse, c'est
voilà,
ça.
La princesse s'est portée candidate pour être Premier ministre éventuellement à l'issue des élections. Et puis le roi l'a écartée. Alors comment comprendre à la fois la candidature et le fait qu'elle ait été écartée ?
Coup de poker total. Moi j'avoue que je n'ai pas compris, mes interlocuteurs non plus en Thaïlande. J'ai évidemment posé la question, comment la sœur du roi peut-elle se permettre de se porter candidate ? Et comment quelques heures plus tard, le roi peut-il publier un communiqué pour dire... Ça n'est absolument pas possible, tu vas retirer immédiatement ta candidature. Je leur ai posé la question, personne ne le sait parce que personne n'est dans le secret des dieux, mais en tout cas je pense qu'on peut dire que ça crée une sorte de fragmentation au sein de la monarchie, dans la mesure où la sœur du roi, la princesse, se montre de manière ostensible avec Thaksin Shinawatra aujourd'hui. Elle se montre proche des partis d'opposition et ça, clairement, ça porte atteinte à cette doctrine de la monarchie selon laquelle ils doivent être au-dessus des partis. Maintenant, quel est le jeu du roi vis-à-vis de la junte ? Est-ce qu'il est d'accord ? Est-ce qu'il va reconnaître le fait que la junte aujourd'hui soit parvenue en tête des législatives ? Personne ne le sait.
Merci beaucoup Vincent Souriau d'être passé dans nos studios. Je rappelle donc journaliste pour RFI, on peut réécouter un certain nombre de vos reportages sur le site d'RFI. Un autre long documentaire à venir donc sur les chemises rouges. Un grand merci à vous. va quitter la Thaïlande pour prendre la direction de la Turquie. Élection municipale en Turquie, fin de règne pour Erdogan.
France Culture, Culture Monde, Florian Delorme.
Mais dans quelques jours se tiendront des élections municipales en Turquie, une échéance que le président Erdogan prend très au sérieux. Pour preuve, la multiplication des meetings et des discours, ces élections sont une question de survie pour la nation, répète-t-il. Raison pour laquelle toute opportunité offerte par l'actualité est bonne à saisir.
Tu as froidement tué 50 de nos frères qui priaient. Tu paieras pour ça. Si la Nouvelle-Zélande ne te fait pas payer, nous savons comment te faire payer d'une manière ou d'une autre.
Biz bunun da hesabını sormasını biliriz.
Voilà, Erdogan qui en meeting a plusieurs fois évoqué la tuerie en Nouvelle-Zélande de cet extrémiste australien qui a tué 50 musulmans. Il a même provoqué l'indignation en diffusant la vidéo du tueur dans un meeting, le signe que tous les coups sont bons pour aller chercher des voix et que le risque est réel de voir le parti de la justice et du développement perdre plusieurs grandes villes, Ankara, Adana, Antalya et même Istanbul, dit-on, la ville dont Erdogan a été le maire et qui a permis à son parti de devenir quasi hégémonique. Alors l'AKP pourrait-elle perdre ce scrutin municipal? La récession économique peut-elle provoquer la chute d'Erdogan? Hamid Bozar Arslan est notre invité ce matin, ainsi que Béatrice Garapon. On va commencer avec vous, Marc Sémo, comme on le fait chaque vendredi. Traditionnellement, c'est vrai que les municipales, c'est pas un enjeu absolument crucial pour l'AKP, sauf que là, le contexte est particulier. Je le disais tout à l'heure, l'économie ne se porte pas très bien et la réussite économique, ça a été évidemment l'un des facteurs qui a permis au parti de se maintenir et de remporter quasiment toutes les élections depuis 2002. Là, les sondages indiquent que plusieurs villes pourraient être perdues. La menace politique semble réelle, là, Marc.
La menace politique est réelle, mais surtout les municipalités. Les élections municipales ne sont pas secondaires. Les municipalités ont toujours été la vitrine politique, la vitrine de l'islamisme politique turc. Et l'irrésistible ascension de l'islamisme politique a commencé avec la grande conquête en 1994 des principales villes, dont Ankara et Istanbul, et effectivement Recep Tayyip Erdogan. Cela a été son tremplin, d'où l'immense portée symbolique de ces élections du dimanche. Alors, un an après son élection, dès le premier tour à la présidence, l'homme fort de la Turquie s'inquiète à raison. Alors, l'économie, tu le disais, va mal. C'était le point fort de l'AKP pendant ses 16 ans de pouvoir. La monnaie se dévalue, les prix des produits de base flambent. Donc, il joue à fond.
Le chômage augmente.
Le chômage. Il joue à fond la carte nationaliste et islamiste. Et par exemple, il évoque ouvertement, jusque-là c'était plus discret, le fait de retransformer Sainte-Sophie, qui était le symbole même de la conquête ottomane de la ville, en mosquée, alors que Mustafa Kemal Atatürk en avait fait un musée depuis 1934. Alors, c'est effectivement une fuite en avant permanente. Depuis le coup d'état militaire raté de juillet 2016, il y a eu 55 000 personnes en prison, plus de 150 000 autres chassés de la fonction publique. Mais effectivement, le Raïs a peur. A raison, parce que ce que l'on oublie, c'est que lors du référendum d'avril 2017, qui a donné ses pouvoirs encore plus étendus à Recep Tayyip Erdogan, toutes les grandes villes, dont Ankara et Istanbul, ont voté pour le non. Donc c'est un très mauvais signal. Et aujourd'hui, plus qu'Istanbul, la ville la plus menacée, c'est Ankara, où le candidat nationaliste sur lequel toute l'opposition converge a réellement des chances de l'emporter.
Hamid Bozarslan, est-ce que cette fois l'AKP peut perdre et est-ce que la récession économique peut provoquer justement cette défaite, Hamid Bozarslan?
Oui, je pense que je ne serai pas en mesure de faire des prédictions concernant les élections de dimanche 31 mars. Théoriquement, oui, l'AKP peut perdre. L'AKP peut perdre parce qu'il y a le vote kurde, et ce vote kurde se déploie à la fois au Kurdistan, mais aussi dans des grandes villes. Le discours d'Erdogan, vous l'avez rappelé, est un discours qui présente le pays comme menacé, la patrie comme menacée. Les Kurdes ont été ouvertement désignés comme terroristes. Les partis de l'opposition ont été assimilés au terrorisme. Et donc, il est très très peu probable aujourd'hui que les partis que le vote kurde aille vers Erdogan. Cela étant dit, toute cette ambiance de peur, cette atmosphère de peur a quand même aussi joué pas mal de rôle. Il est très très difficile de savoir comment l'Anatolie profonde va voter, comment la population turco-sunnite d'Istanbul, d'Ankara, qui souffre par ailleurs énormément de difficultés économiques, va réagir. Donc on aura les réponses sans doute pas avant dimanche soir. Donc les deux processus, à la fois de contestation contre l'AKP et en même temps de la peur que si l'AKP perde, la communauté turco-sunnite perdra aussi ses privilèges, vont de pair.
Béatrice Garapon, votre sentiment? Je ne demande pas de regarder dans le marc de café, mais quand même.
Non, mais j'ajoute qu'en fait cet argument qui consiste à dire la situation économique c'est beaucoup dégrader et donc ça aura des conséquences forcément sur le vote AKP. Il est à prendre un petit peu avec prudence puisque ça fait quand même plusieurs élections maintenant que la situation économique en Turquie est moins bonne qu'elle ne l'était. Et on n'a pas vu vraiment se répercuter.
Pardon, mais là, il y a quand même un affaissement depuis c'est un vrai. An quand même. La non, livre qui a perdu énormément de
Oui, oui, c'est vrai. Non, c'est vrai.
Le chômage, oui. c'est des taux inédits, là.
C'est vrai que la crise a pris vraiment une autre dimension. Mais en même temps, l'argument de l'AKP qui consiste à dire la crise est très grave, mais si on s'en va, ce sera encore pire. Et seuls nous pouvons protéger la Turquie des puissances étrangères, etc. peut aussi marcher. D'autant que je voudrais ajouter que pour une municipalité, être dans l'opposition, c'est aussi se priver d'investissements d'État et ça peut faire empirer la situation localement.
Voilà. Marc Sémo.
Oui, en outre, sur le plan municipal, c'est peut-être le domaine où l'AKP au pouvoir a été le moins mauvais. C'est-à-dire non seulement, globalement, il remporte les élections depuis 16 ans, y compris parce que le revenu des Turcs a triplé, etc. Mais globalement, ça a été plutôt des bons maires, donc beaucoup construits, il y a pas mal de corruption, mais plutôt moins que les autres. Et donc, le scrutin municipal n'est pas celui où ils sont le plus mal placés. D'où le fait que ça, plus la peur, peut faire qu'ils peuvent limiter les dégâts. Ensuite, un autre élément dont il faut parler, à mon avis, c'est la fraude. C'est-à-dire, déjà aux dernières élections municipales, dans le cas particulier d'Ankara, il y a eu manifestement des fraudes, pour déjà le même empêcher la victoire de ce même candidat qui aujourd'hui peut l'emporter. Il y avait eu des fraudes lors du référendum, marginal, qui avait été à l'époque dénoncé par les observateurs de l'OSCE, ce qui est nouveau en Turquie, parce qu'en Turquie, jusque-là, globalement...
Il n'y avait pas besoin de frauder.
Non, c'est pas qu'il n'y avait pas besoin de frauder. Il y avait un système démocratique qui était fonctionnel et fonctionnant, y compris après les coups d'État militaires, il n'y avait pas de fraude quand il y avait des élections. Or là, c'est un élément nouveau. Et cette fois-ci, je pense que ça va être un enjeu majeur, parce que effectivement, c'est pas des fraudes à la Russie de Poutine. Mais comme ça va se jouer à très peu de points, la fraude peut avoir un rôle.
La fraude comme peut-être élément décisif de ce scrutin, Amit Wazarslan ?
Je pense que la fraude a joué un rôle extrêmement important en 2014-2015 lors du référendum, mais aussi sans doute en 2018 lors des élections présidentielles et parlementaires, en tout cas dans les villes kurdes. Mais je pense qu'il y a un deuxième facteur qui intervient et sur lequel on dispose de très peu d'éléments, même si on a quand même des chiffres, c'est tout ce réseau de charité que l'AKP, les municipalités de l'AKP entretiennent aujourd'hui. Ces réseaux sont très importants parce que pour l'AKP, la pauvreté n'est pas du tout une question politique, encore moins une question sociale. C'est tout simplement une question de charité. Et donc, du coup, en contrepartie de la corruption à très grande échelle que l'AKP a mise en place, il y a cette distribution des produits de première nécessité. Il y a cette aide...
Et notamment des distributions de nourriture un peu partout, sur la passe taxi notamment, etc.
Et donc, tout ceci, ça signifie aussi qu'à un moment donné, la population est prise en otage. La population est prise en otage, d'autant plus qu'effectivement, cela est présenté non pas comme un service social rendu à la population défavorisée, mais comme une sorte de bien de charité assurée par le raïs lui-même. Cette idée que le raïs et la nation sont en fusion charnelle, que la menace qui pèserait sur le président pèserait sur la nation elle-même, peut à un moment donné fonctionner, mais comme j'ai dit, on a très peu d'éléments qualitatifs sur le sujet.
Béatrice Guérapon.
Oui, j'ajoute qu'en fait, les municipalités, c'est un rouage essentiel de, on pourrait dire, la machine politique que l'AKP a mis en place pour remporter les élections un peu à tous les coups. C'est vraiment le lieu donc de redistribution, des réseaux clientélistes, mais aussi de mobilisation électorale. Et notamment si l'AKP perd Istanbul. Istanbul, c'est 15 millions d'habitants sur les 80 millions de toute la Turquie. Donc, c'est à peu près 25% des électeurs. Et donc, si l'AKP perd Istanbul, il y a d'une part un enjeu symbolique dont on parlait, mais il y a aussi un enjeu concret qui est que l'AKP se prive d'un levier d'action très important.
C'est aussi décisif que ça, Istanbul. Je crois que Erdogan dit souvent « celui qui tient Istanbul ». Tiens, la Turquie, politiquement, c'est le cas. Et donc là, si effectivement Istanbul était perdu par l'AKP, on peut imaginer que c'est une forme de début de la fin de l'ère Erdogan ? Amit Wazarslan.
En tout cas, dans la
c'est Erdogan qui dit ça. Celui qui tient Istanbul tient la Turquie.
Voilà. Dans la lecture d'Erdogan, oui, parce que n'oublions pas que pour Erdogan, les Turcs ont une mission historique. Cette mission historique consiste à dominer le monde. Elle a été entravée. Elle va recommencer. Et cette mission historique se base autour de deux dates qui sont très importantes. La première date, c'est 1071. Ça veut dire l'entrée des Turcs en Asie Mineure. Et pour Erdogan, effectivement, d'ici 2071, il il faudrait que la nation turque soit restituée dans sa pureté ontologique pour que cette mission historique de domination recommence. Mmh. Et il y a une deuxième date qui est extrêmement importante, 1453, donc la conquête d'Istanbul, parce que c'est à travers cette conquête que le petit beylicat de ottoman a pu s'impérialiser. Donc dans la vision impériale que Erdogan a de la Turcité, définitivement Istanbul est symboliquement très importante. Mmh. Alors que
Politiquement ?
Et politiquement aussi très importante, parce qu'effectivement, Istanbul, ça, c'est une concentration de la Turquie dans sa totalité, avec un vote alévi quand même très important, un vote kurde très important. On estime le nombre de Kurdes à quelques 3 millions. Et en même temps, Istanbul, c'est aussi devenu cette ville turco-sunnite hein, à travers l'exode rural des années 60, 70, 80.
Okay, il représente un peu, Istanbul représente un peu la démographie générale de la Turquie.
De pays. Mmh.
Marc Semo.
Non, et surtout, il faut voir que les municipalités, donc justement Istanbul, Ankara, c'est 25 ans, un quart de siècle de gestion islamiste. Alors les étiquettes ont changé au gré des interdictions, mais c'est 25 ans de continuité islamiste. Donc effectivement, le choc serait immense, et c'est pour ça qu'il fera tout. Parce que, en plus, Erdogan a une espèce de vision très califale de sa fonction, et évidemment, la ville symbole de ça, c'est Istanbul, c'est pas Ankara. Mmh. D'où le fait que s'il perd Ankara, c'est pas bien, mais c'est pas une tragédie.
Béatrice Garapon.
Oui, j'ajoute que il y a des rumeurs depuis maintenant assez longtemps qui disent que au sein de l'AKP, des anciens poids lourds de l'AKP qui ont été écartés du pouvoir par Erdogan pourraient fonder un nouveau parti. Donc Abdullah Gül qui était l'ancien président, Ahmet Davutoğlu qui était le premier l'ancien premier ministre. Mais évidemment, tant que l'AKP continue de gagner les élections, ils n'y ont aucun intérêt. Et là, Ahmet Davutoğlu a fait savoir de façon officieuse que là, si l'AKP perd ses élections, il fondera son nouveau parti.
Alors regardons peut-être un peu du côté de l'opposition cette fois. Les principaux partis d'opposition, d'abord le CHP, le Parti Républicain du Peuple, le Kémaliste, centre-gauche, conduit par Kemal Kılıçdaroğlu, je prononce correctement, merci. Le İyi Parti, le Bon Parti, on est là sur la droite nationaliste avec Meral Akşener. Il y a évidemment aussi le HDP, le Parti Démocratique du Peuple, le parti pro-kurde, mais qui en fait est bien au-delà du seul électorat kurde, qui est la troisième force politique, en tout cas au Parlement, mais qui depuis des mois, des années maintenant, fait l'objet d'attaques très récurrentes, et les principaux cadres sont aujourd'hui derrière les barreaux, à commencer par Zelatin Demirtaş, bien sûr. Est-ce qu'ils sont en mesure, ces partis d'opposition, à proposer une véritable alternative politique, ou est-ce qu'au fond, dans l'hypothèse où ils remporteraient ce scrutin, ce ne serait que le fruit d'un rejet de Erdogan ? Hamid Bozarslan.
Je pense que de toutes les manières, les élections municipales, si Erdogan devait les perdre, signifieraient la fin d'une logique plébiscitaire, mais ne changeraient pas les rapports de force. Erdogan a connu par le passé plusieurs moments de défis. En 2015, il a perdu les élections législatives. Il a fait régner effectivement une période de terreur absolue et il a renouvelé les élections. Là, je crois qu'effectivement, si Erdogan devait perdre, il aurait une riposte, sans doute assez massive. Erdogan l'a rappelé, il peut parfaitement démettre les maires de leur fonction et les remplacer par les administrateurs
qu'il a fait
dans la région kurde, parce que dans la région kurde, finalement, sur les 102 municipalités que le parti contrôlait, aujourd'hui, il n'en reste que deux. Donc là, il a la possibilité de riposte qui est absolument terrifiante. Et il y a un deuxième facteur qui intervient aussi, c'est que il n'aura pas d'autres élections en principe d'ici 4 ans et demi. Donc d'un côté, effectivement, ça sera l'ébranlement de cette logique plébiscitaire qui a permis à Erdogan de se légitimer par le vote. Mmh. Et de l'autre côté, il y a malgré tout cette stabilité qui sera aussi terrifiante pendant les 4 années à venir.
Béatrice Garapon et puis Marc Semo. Et peut-être pour prolonger, Béatrice Garapon, les auditeurs connaissent pas forcément très bien le paysage politique de la Turquie et pas forcément très bien l'opposition telle qu'elle existe aujourd'hui. J'ai cité là 3 partis. Ce qu'on pourrait regarder aussi, c'est dans quelle mesure est-ce qu'on peut imaginer, comme la même question que tout à l'heure sur la Thaïlande, un front anti-Erdogan. Est-ce qu'une alliance est possible entre ces 3 partis ? Béatrice Garapon.
Alors, pour répondre un peu à votre question précédente, je voudrais ajouter que c'est vrai que le CHP n'a pas forcément de discours très clair sur les façons de sortir de la crise, notamment comme on disait que la crise économique était un élément très important. Mm-hmm. En revanche, le CHP a eu une stratégie intéressante qui était au niveau local de présenter des candidats très influents localement. Et par exemple, le candidat d'Istanbul, il a commencé par être élu maire de district et il peut se prévaloir d'un bon bilan notamment d'une politique sociale. Donc il a fondé plusieurs crèches, des jardins partagés, etc.
Et Ankara aussi, il y avait eu un candidat commun.
Et à Ankara aussi, ouais. il y a un candidat commun. Et j'ajoute qu'à Ankara, le candidat, c'est le candidat du CHP, du parti de centre-gauche, ouais. mais il vient de l'extrême droite. Donc c'est une figure nationaliste et probablement l'électorat du MHP votera pour ce candidat-là, pour le candidat de l'opposition et pas pour le candidat commun AKP-MHP.
Marc Semo.
Non, justement, à propos d'Ankara, c'était ce candidat qui, aux dernières élections municipales, avait failli gagner. Il y a eu le premier cas de fraude avéré en Turquie, où brusquement, il y a eu une panne d'électricité au moment du décomptage des voix. Officiellement, c'est un chat qui serait rentré dans le système.
C'est l'explication qui avait été donnée.
Officielle, voilà. D'accord. Et donc, il y a eu pendant 2 heures une coupure, tout s'est arrêté. Et après, malgré tout, c'est le maire AKP qui a gagné. Mmh. Et voilà, donc c'est peut-être un des symboles, le fait que Ankara soit gagné par l'opposition. Mais évidemment, c'est pas Istanbul. Donc, ça serait le début, peut-être le début de la fin, mais d'un processus qui risque d'être encore lent, aussi parce qu'il n'y a pas de vraie alternative aujourd'hui.
Mmh.
Y compris dans un système présidentiel encore plus personnalisé que celui qui est en France, il n'y a pas de personnalité d'envergure à même d'occuper cette fonction.
Amine Bozarslan, sur les logiques d'alliance possible entre les trois partis que j'évoquais, donc le CHP, le Bon Parti, le Ili Parti et le HDP, qu'est-ce qui est possible, qu'est-ce qui n'est pas possible en termes d'alliance?
C'est là qu'on voit la centralité de la question kurde, parce qu'aujourd'hui, si on prend la politique syrienne d'Erdogan, qui est clairement dans une impasse totale, si on voit les conflits avec les États-Unis, tous ces conflits-là, toutes ces questions-là s'expliquent très largement par la question kurde. Or, les partis d'opposition sur la question kurde ne présente aucune ouverture. Quand vous prenez le parti kémaliste, effectivement, une partie de ce parti kémaliste est de sensibilité démocratique, mais l'autre partie est quand même extrêmement nationaliste. Vous avez mentionné effectivement le Bon Parti. Le Bon Parti vient de l'extrême droite. Elle reste pas mal encore d'extrême droite. Il est profondément anti-kurde. Et donc, du coup, il ne reste que le parti pro-kurde ou le parti kurde qui obtient quelques 12%. Donc, tant que l'opposition ne se résout pas à dire que la question kurde existe en Turquie, cette question doit être pacifiquement résolue. Je ne crois pas du tout qu'on puisse avoir une alternative politique pour renverser l'erdoganisme comme système.
Bah, ça tombe bien, on va poursuivre justement sur la question kurde. Place à notre partenariat avec Cartooning for Peace. Le vendredi, on sélectionne un dessin sur notre thème du jour. On le diffuse sur les réseaux sociaux. C'est notre bulle cartooning du vendredi.
Il fait le clown!
Mais on a été créé pour faire rire les hommes, mon vieux!
Assis!
Quand le dessin éclaire l'actualité. Bonjour Samuel Bernard.
Bonjour Florian, bonjour à tous.
C'est vous aujourd'hui qui nous présentez ce dessin qui est une scène de complot.
Alors oui, c'est une scène qui pourrait sortir tout droit d'un polar ou d'un album de Blake et Mortimer que nous dessine aujourd'hui Chapat, dessinateur de presse suisse qui travaille pour de nombreux médias, dont Le Temps, le Neue Zürcher Zeitung et ici le New York Times. Alors vous me parlez d'un complot, Florian. Oui, il s'agit bien en effet d'une scène d'intrigue. D'ailleurs, elle en a tous les atours. Nous sommes ici dans l'intimité d'une petite salle à la lumière tamisée et comme des ombres chinoises dansent sur les murs les silhouettes de 4 intrigants personnages. Alors ils sont installés autour d'une table, enfin installés seul l'un d'entre eux et confortablement assis sur une chaise, et avoir la posture de ses compagnons, c'est visiblement lui le maître des lieux. Alors pour qui en douterait, notre royal protagoniste arbore un immense turban blanc qui lui donne des allures de sultan. Alors vous l'avez sans doute déjà reconnu, il a une 60aine d'années, la moustache grise en brosse, les yeux pochés, c'est évidemment le président turc Recep Tayyip Erdogan. Alors à sa droite, 2 militaires, étoilés et moustachus, se tiennent légèrement en retrait, ils ont une mine inquiète, et observent aux côtés de leur président une carte déroulée sur la table qui ressemble à un plan d'attaque. De grosses flèches noires pointent une zone qu'on imagine la zone ennemie et sur laquelle on lit « Kurds », les Kurdes. Alors oui, ce document a tout l'air d'un programme d'invasion. Alors on ne sait pas exactement où, mais une chose est sûre, tandis que le maître des lieux a la patte solidement posée sur le funeste document, le président tient sur sa paume un autre objet qu'il s'apprête à jeter au loin. C'est une grosse boîte blanche au couvercle percé d'une fente rectangulaire. Il s'agit d'une urne floquée du mot « démocratie ». Alors il est sur le point donc de jeter aux oubliettes de l'histoire la précieuse boîte et alors le président s'exclame « We don't need this anymore, on n'a plus besoin de ça ». l'allégorie, elle est très claire. Le Reich, comme on l'appelle, s'apprêterait d'un même geste à se débarrasser de la fragile démocratie turque et attaquer les Kurdes, sans doute ceux de Syrie, qui attendent de savoir le sort qui leur sera réservé depuis que Donald Trump a annoncé en décembre dernier le départ des troupes américaines. Alors, pourquoi maintenant? Pourquoi le règlement du sort des populations kurdes a-t-il rendu la démocratie inutile? Je laisse à nos invités le soin d'y répondre. Mais avant de terminer, Florian, un dernier mot sur le quatrième protagoniste qu'on avait presque oublié. Il est situé sur la droite du dessin, lunettes rondes, costume de bureaucrate, sans doute un observateur de la communauté internationale dont la posture discrète et le visage interdit trahit l'impuissance des pays occidentaux face au projet autoritaire et belliciste qui se prépare dans les sombres couloirs du palais présidentiel de Turquie.
Merci beaucoup Samuel. Réaction de nos invités, Béatrice Garapon, Amine Bozarslan, et peut-être en particulier justement sur, parce que évidemment ça nous fait penser à la séquence de décembre 2018 quand Donald Trump avait annoncé le retrait des troupes américaines de Syrie et que beaucoup d'observateurs nous disaient que la Turquie allait probablement lancer une opération militaire sur les Kurdes de Syrie, ce qui n'est pas arrivé. Amine Bozarslan.
Oui, dans ces discours, Erdogan, c'est plein que les opposants évoquent beaucoup le prix de l'oignon et le prix de l'aubergine et des patates, parce qu'aujourd'hui, effectivement, l'oignon et la patate coûtent beaucoup plus cher qu'en France. Il y a une pénurie. Et il a rappelé que cette même opposition ne se posait pas la question de combien coûte une balle ou combien coûte un char. Donc, effectivement, à un moment donné, il faut savoir, selon lui, sacrifier l'économie pour pouvoir assurer la supériorité militaire de la Turquie dans la région et surmonter la question de la survie de la nation, donc le Kurdistan syrien. Son projet effectivement d'occuper, d'envahir le Kurdistan syrien a été très clairement affiché. Il y a des projets qui sont des plans militaires qui sont déjà tout à fait préparé. La première étape a eu lieu effectivement en 2017-2018 dans la ville de Afrin, dans la région d'Afrin, qui a été transformée finalement en une sorte de djihadistan. Aujourd'hui, il veut se poursuivre ce projet avec le reste de Kurdistan syrien. Pour le moment,
sauf qu'il ne le fait pas. Il a peut-être entendu les menaces du président américain.
Voilà. Il a très clairement entendu les menaces du président américain. Le président américain l'a menacé effectivement de dévaster l'économie turque. C'était vraiment le terme qu'il a utilisé. Mais il a aussi entendu que les Américains, très probablement ne vont pas se quitter la Syrie, en tout cas dans l'immédiat. La présence américaine semble assurer aussi une présence française, britannique et peut-être australienne et arabe. Donc pour le moment, le dossier est gelé, mais les projets ne sont absolument pas gelés. Et pour Erdogan, de toute façon, effectivement, voilà, la seule entrave aujourd'hui, la seule raison de la seule... disons manifestation majeure de l'existence de la question de l'existence même de la Turquie, c'est la question kurde. Donc il faudrait résoudre cette question kurde, et cette question ne peut être résolue selon lui qui par des moyens militaires.
Béatrice Garapon.
Oui, j'ajoute que, enfin, l'observation que j'en fais, c'est quand même que la politique étrangère reste largement au second plan de la, pas de la campagne, mais des préoccupations des électeurs. Et c'est plutôt, justement, l'AKP fait l'effort, essaye de présenter la politique étrangère et notamment la Syrie comme un élément essentiel. Mais voilà, c'est plutôt les difficultés économiques qui sont à l'esprit des électeurs. Voilà.
En tout cas, j'indique aux auditeurs qu'on diffuse évidemment sur le fil Twitter de l'émission le dessin dont on vient de parler, Samuel Bernard. Marc Semo, réaction.
Oui, on craignait beaucoup qu'il y ait une intervention, même limitée, sur des parties du Kurdistan syrien avant les élections municipales. Parce que, de fait, ça a été pour Erdogan, et on l'avait vu en 2015, une manière de réasseoir son pouvoir. Il avait perdu les élections en juin. Il a interrompu le processus de paix. Les Kurdes ont lancé une insurrection urbaine. Il y a eu une guerre qui a fait quasiment 5000 morts à cette époque. Et Erdogan a triomphé aux élections anticipées 6 mois plus tard à l'automne.
Sauf que là, il ne peut pas lancer cette opération militaire.
Là, il ne peut pas lancer cette opération militaire. Ça va rester effectivement comme une hypothèse, mais pour le moment, il est coincé.
Alors, est-ce qu'on pourrait se dire que finalement, puisqu'il ne peut pas précisément utiliser cette carte militaire, est-ce qu'il pourrait faire l'inverse? C'est-à-dire, est-ce qu'il pourrait décider finalement d'essayer de régler la question kurde? C'est vrai qu'aujourd'hui, ça paraît complètement aberrant, mais qu'en fait, quand on revient un tout petit peu en arrière, je me souviens, Marc Semo, par exemple, on était ensemble à Istanbul en janvier 2013, avant que ne commencent les manifestations de Taksim, et à l'époque, il y avait une feuille de route pour la paix. Et d'ailleurs, il avait dit, il n'y a pas de problème kurde, il y a une question kurde. Est-ce que finalement Erdogan pourrait revenir à cette idée? On va régler cette question kurde après avoir effectivement lancé des opérations militaires, puisque de toute façon aujourd'hui je n'ai plus cette carte-là. Essayons de la régler politiquement. Ça paraît absurde ça, Amine Bozarslan?
Théoriquement, ça ne paraît pas absurde. Je crois qu'effectivement, c'est le discours kurde-irakien aussi qui maintient toujours un rapport avec Ankara. Beaucoup d'observateurs le soulignent. Le problème, c'est que depuis 2013, on a l'impression que le régime d'Erdogan ne se survit que par en se radicalisant et par cette fuite en avant. Il peut y avoir des moments pragmatiques, on l'a vu, mais en même temps, ces moments pragmatiques ne durent que 3 semaines. Tout de suite après, il y a une nouvelle crise, soit en interne, soit en externe. La crise avec l'Occident, la crise avec les États-Unis, la crise avec la Russie, la crise avec l'Égypte ou avec Israël. Donc on a l'impression que le régime ne peut plus assurer sa survie qu'en se présentant comme constamment menacé et en présentant la Turquie comme menacée dans son existence même et donc déclencher une nouvelle crise. Donc est-ce que Erdogan va profiter des 4 années et demie à venir pour dire que voilà, cette question ne peut pas être résolue par les armes, donc on revient à la table des négociations. Là, je crois qu'effectivement, il retrouvera un soutien indéniable du côté américain et européen. Ou est-ce que voilà, son moment pragmatique va durer 3 semaines et 3 semaines après, il aura une nouvelle crise. Voilà, je crois que la question est plutôt là.
Béatrice Guérapon.
Oui, j'ajoute que là, effectivement, Erdogan a montré qu'il savait être pragmatique quand il le fallait, mais là, il y a quand même des obstacles objectifs, et notamment l'alliance avec le MHP, le parti d'extrême droite. Je pense que pour l'électorat de l'AKP ou de cette alliance, ce serait très difficile de revenir vers un règlement négocié de la question kurde. Et puis, j'ajoute qu'il y a eu quand même une campagne très violente de l'armée turque contre certaines régions kurdes du pays en 2015-2016, avec vraiment de très nombreuses violations des droits de l'homme, etc. Donc, même pour l'opinion kurde, je pense pas que c'est mon sentiment. Je pense qu'une main tendue, ce serait pas forcément très bien accueilli.
Pareil, si on refait un petit peu d'histoire, Hamid Bozarslan, et qu'on revient au début de l'ère Erdogan, à l'époque, on avait une Turquie qui avait une diplomatie très ouverte, avec cette fameuse doctrine du zéro problème avec les voisins, qui avait été notamment, bien sûr, développée, vous l'évoquiez tout à l'heure, par Ahmet Davutoglu, qui était ministre des Affaires étrangères à l'époque. Il l'avait d'ailleurs théorisé dans un ouvrage. Aujourd'hui, on le voit, la Turquie, elle a des problèmes, pas avec tout le monde, mais avec quand même pas mal de partenaires, avec les Européens, avec les Américains, etc. Comment est-ce qu'on en est arrivé là, Hamid Bozarslan? C'est quoi le moment de bascule?
Je pense que pour comprendre comment on en est arrivé là, il faudrait sans doute remonter aux années 70, quand Erdogan était un jeune militant islamiste.
Donc avant son arrivée au pouvoir.
Voilà. On sait qu'est-ce qu'il a lu. Il a lu une quinzaine d'ouvrages, des ouvrages assez antisémites, des ouvrages qui présentaient la fin de l'Empire ottoman comme un complot impérialiste, qui lisait la Première Guerre mondiale comme une guerre exclusive de destruction de la Turquie. Erdogan, n'oublions pas, a joué durant sa jeunesse dans cette pièce de théâtre qui s'appelle Maskomyar, maçon communiste juif. Donc là, c'est constitué une sorte de stock cognitif, mais pas uniquement un stock cognitif, mais aussi des relais, des réseaux. Et ne serait-ce que quand on regarde avec qui sont mariés les filles d'Erdogan, on comprend combien ce réseau a été très important. Après, cela n'a pas empêché une ouverture, une déradicalisation, mais à partir de la crise syrienne de 2011, qui a entravé totalement le projet de Ahmet Davutoglu et d'Erdogan de s'imposer comme le primus inter pares dans la région. Cet ancien stock cognitif a été mobilisé de nouveau. Effectivement, si on échoue en Syrie, si on échoue en Égypte, si on échoue en Libye, tout ceci, ça signifie qu'effectivement, le complot impérialiste continue. Et donc, les déconvenues que la Turquie a subies en Syrie, ces changements de stratégie, d'avoir une politique absolument anti-Bachar al-Assad, anti-Iran, anti-Russe, par la suite un rapprochement avec la Russie et avec l'Iran. Tout ceci, ça s'explique effectivement par ce stock cognitif. Voilà, la turcité qui est menacée, la turcité qui a cette mission historique de dominer le monde, qui est de nouveau menacée. Et j'ai l'impression qu'effectivement, Erdogan est retourné à ses lectures des années 70.
Donc au fond, la doctrine du zéro problème avec nos voisins du début de l'ère Erdogan était complètement contre nature d'une certaine manière.
Voilà. En tout cas, dans sa perspective, elle était contre nature. Erdogan, des années 2000, disait qu'il était l'élève de Konrad Adenauer et non pas de Saïd Qutb. Erdogan, des années 2010, est redevenu l'élève non seulement de Saïd Qutb, mais aussi de la pire littérature antisémite qui puisse exister dans la culture politique turque.
Marc Semo et puis Béatrice Guérapon. Marc Semo.
Je pense que c'est plus compliqué que ça. C'est-à-dire, il y avait chez Erdogan une volonté d'une diplomatie califale, c'est-à-dire la Turquie, de par son histoire, doit retrouver le rôle leader qui était le sien à l'époque ottomane, évidemment voilà, autour de, cette mission qu'il pensait que Dieu lui avait assignée. Ensuite, cette diplomatie des zéro problème aux frontières avait plutôt marché. Ils avaient normalisé à peu près avec tous les voisins. Il y avait même des conseils des ministres communs avec la Syrie. Ils avaient levé les visas pour la Syrie, ce qui avait d'ailleurs fait hurler les Européens. Ce qui s'est passé, c'est que ça a été aussi les printemps arabes, et notamment la Syrie. C'est-à-dire, au début, Erdogan essaye de convaincre Bachar el-Assad d'écouter son peuple. C'était les mots d'Erdogan, parce qu'évidemment, comme on le sait, Assad n'a pas fait. Ahmed Davutoğlu, qui à l'époque était Premier ministre, avait une très belle phrase. Il dit « On espérait qu'Assad serait Gorbatchev, il a été Milosevic ». Donc à partir de là, la Turquie devient le pays, le principal soutien de l'insurrection syrienne. Et à partir de là, dans un Moyen-Orient qui est en train d'exploser de tous les côtés, c'était assez difficile pour la Turquie, quoi qu'elle ait voulu ou pu faire, de garder des relations pacifiées avec un environnement qui est en train de s'embraser. Sauf à résoudre la question kurde, effectivement. D'où le fait que jusqu'en 2015, Erdogan a voulu résoudre la question kurde et que, encore quelques semaines avant les élections de 2015, l'AKP, le parti d'Erdogan, et le HDP étaient en train d'évoquer une possible coopération gouvernementale pour après l'élection, avec même un projet de constitution rédigé ensemble.
Béatrice Garapon.
Oui, j'ajoute qu'il y a quand même une forte dimension un peu marketing aussi de cette formule zéro problème avec nos voisins qui a pas toujours, bon, il y a eu quelques réussites, mais en réalité, c'est ça, désigne surtout un activisme diplomatique qui a duré à peu près entre 2005 et 2011 et qui était le grand credo de Davutoğlu. Donc, moins Erdogan que Davutoğlu qui a quitté maintenant, qui a vraiment été écarté du pouvoir. Et voilà, mais les réussites sont pas non plus, enfin, c'est vrai que la Turquie vit quand même dans un environnement très conflictuel, donc, ça n'a pas non plus été une réussite sur tous les plans.
Mais c'est surtout que d'une certaine manière, Erdogan a magnifié un petit peu cet isolement. Il en a fait au fond une force. Il a retourné un petit peu l'ennemi, non ?
Il en a fait une vertu.
Il en a fait une vertu.
Vous voyez, effectivement, on est fondé. Certes, notre économie est attaquée parce que pour Erdogan, il n'y a pas de crise économique. Hein. C'est un complet étranger. Certes, il y a des menaces. Hein. Les croisés qui sont composés de lobbies juifs, de la diaspora arménienne, des homosexuels, des zoroastriens nous attaquent, etc. Donc ce discours-là a été toujours répété. Mais en même temps, voilà, effectivement, pour Erdogan, on est attaqué. Mais de l'autre côté, on garde notre intégrité morale.
Et nos valeurs,
et on représente toujours une mission historique.
Mais c'est vrai que la paranoïa a toujours été un des grands, les théories du complot, un des grands registres de la politique d'Erdogan. Ce qu'il faut voir aussi, c'est que la Turquie aujourd'hui est moins isolée qu'elle ne le fut à l'époque de la guerre froide. Les relations avec la Russie sont compliquées, mais elles sont bonnes. La Turquie est avec l'Iran, fait partie du processus d'Astana pour tenter de trouver une solution. Les relations avec l'Irak et notamment avec le Kurdistan d'Irak ne sont pas mauvaises. Donc on peut pas, avec la Géorgie, elles sont bonnes. La Turquie n'est pas aussi isolée qu'elle le fut longtemps.
Merci beaucoup en tout cas à nos invités. Béatrice Garapon, merci beaucoup d'avoir été avec nous ce matin. Hamid Bozarslan, je rappellerai pour nos auditeurs qui veulent aller plus loin encore, Crise, violence, décivilisation qui est paru aux éditions CNRS au début de l'année, mais aussi une histoire de la Turquie. Gros livre, je vais pas le rendre. Une sociologie politique du Moyen-Orient aussi, c'était à la découverte. Enfin, plein d'autres encore. Merci beaucoup. Et puis un grand merci aussi à Samuel Bernard qui nous a fait aujourd'hui cette chronique pour Cartooning for Peace et qui nous quitte. Il sera plus là à partir de lundi. C'est un long parcours ensemble, hein, 3 ans, Samuel. Merci, un grand merci. C'est un vrai plaisir, Samuel, de travailler avec vous.
Merci à vous, Florian.
Je vous souhaite plein de belles choses pour la suite et je suis sûr que nos routes vont se recroiser, cher Samuel. Merci infiniment. 11h53, l'heure pour nous de retrouver Brice Couturier et son Tour du Monde des Idées.
Le Tour du Monde des Idées, Brice Couturier.
Bonjour Brice.
Bonjour Florian.
L'adjectif liquide est de plus en plus souvent utilisé pour décrire l'état de nos sociétés, en particulier le caractère informe de notre vie politique.
Oui, et dans sa dernière chronique publiée il y a 3 jours par Le Monde, l'excellent observateur de la vie politique nationale, Gérard Courtois, écrit, je le cite, « De solide, la politique est d'abord passée à l'état liquide et désormais à l'état gazeux, donc explosif. Discrète allusion aux thèses développées par le célèbre sociologue Zygmunt Bauman, l'inventeur de l'expression « modernité liquide » qui lui paraissait plus précise que celle de « postmodernité ». En résumé, écrivait Bauman, la vie liquide est précaire, vécue dans des conditions d'incertitude constante. La vie liquide est une succession de nouveaux départs, une série de nouveaux commencements, vers nulle part. Les anciens repères sociaux, facteurs de sécurité, se sont effondrés dans un monde livré au consumérisme. Les attachements sont devenus tous révocables. Le seul impératif de notre monde vécu est celui de la mobilité, de l'adaptation à de nouvelles donnes, dont on nous dit d'ailleurs qu'elles se succèdent de plus en plus vite et de plus en plus souvent. J'ai eu la chance d'obtenir une longue interview de Zygmunt Bauman dans le cadre de l'émission que j'animais sur l'antenne de France Culture, Cause commune. Il y retraçait, avec gentillesse, son étonnante biographie intellectuelle. Et cet entretien reste dans mon souvenir comme un grand moment d'intelligence. Disparu il y a 2 ans, Zygmunt Bauman avait eu le temps de mettre au point, à 90 ans, Florian, un ultime ouvrage. Il paraît ces jours-ci en français, sous le titre de « Rétrotopia » aux éditions Premier Parallèle. On y constate que le fameux sociologue polonais exilé en Grande-Bretagne n'avait rien perdu de son étonnante sagacité. Il y observe, avec humour, combien l'épidémie globale de nostalgie qui nous atteint a pris le relais de l'ancienne épidémie de frénésie progressiste qu'avait connue le XXe siècle. Désormais, l'âge d'or n'est plus situé dans un avenir radieux dont il faudrait hâter et forcer l'avenue en accomplissant la promesse de prétendue loi de l'histoire. Non seulement le futur n'est plus le milieu naturel des espoirs et des attentes, mais il est devenu le réceptacle de tous les cauchemars. Nos enfants vivront plus mal que nous, le climat se dégrade, nos communautés protectrices et rassurantes éclatent, elles doivent accueillir les autres en multitude. Le pouvoir politique a divorcé de la puissance, il est dans l'incapacité de tenir ses promesses. Ce qui provoque, je cite Bauman, une colère rentrée ulcéreuse et brûlante parce qu'aucun exutoire n'a permis de lui laisser libre cours, qui tourmente de vastes pans de la population. Du coup, pensait Bauman, nous avons régressé dans un monde pré-hobbesien. Nous sommes à nouveau dans le monde brutal où les tribus, qu'elles prennent ou non la forme politique des nations, renouent avec l'agressivité de l'état de nature. Cet état de nature, Hobbes le caractérisait comme condamnant les individus à, je cite, une vie solitaire, indigente, dégoûtante, animale et brève, à la guerre de tous contre tous. De même, l'individu contemporain est un narcisse poursuivi par la peur de la solitude qui a le sentiment de vivre dans un monde redevenu terriblement dangereux.
La philosophie de Hobbes peut être considérée, Brice, comme une façon de légitimer l'autorité sans rival de l'État, le pouvoir absolu. Cette régression engendre-t-elle chez Bauman une aspiration à un pouvoir autoritaire ?
Non, étrangement. Son pronostic, c'était que la réaction prendrait la forme d'une tribalisation. Voyez ces internautes, il le citait, en quête de zones de confort où chacun se retrouve en situation, aidé par la technologie numérique, de faire sa petite cuisine informationnelle. Autant dire, disait-il, que la lisibilité du monde n'en ressort pas améliorée. Toutes sortes de démagogues, des politiciens de la colère, selon Bauman, prospèrent sur l'exploitation des clivages identitaires. Ils prétendent protéger leurs petites tribus, en clôturer le territoire, en chasser les étrangers, sous prétexte d'en restaurer l'harmonie perdue. De ce fait, c'est le passé. Un passé mythifié comme âge d'or de la cohérence sociale et de la prévisibilité des comportements qui est devenu notre idéal. Un passé reconstruit par le souvenir, idéalisé. Le paradis est perdu, mais il ne tient qu'à nous de le ressusciter. Après l'ère du progressisme, nous sommes entrés dans un âge régressif. L'aspiration la plus répandue, écrivait Zygmunt Bauman, c'est le nirvana de l'utérus. Afin d'échapper à l'agitation sans but, à la surabondance vaine des objets et des informations mises à notre disposition, l'immobilité originale du fœtus. L'utérus, en tant que lieu sûr où l'on ne se voit guère mis au défi, où l'on n'a guère à subir des interférences, un monde sans concurrent susceptible de compromettre le statut de son unique résident ou de lui subtiliser ses avantages et autres privilèges. Rétrotopia, le dernier Zygmunt Bauman, est publié aux éditions Premier Parallèle.
Merci beaucoup Brice Couturier pour cette chronique qu'on peut retrouver sur le site de France Culture. Dans un très court instant, on retrouve Olivia Gesbert et La Grande Table.